19 et 20 juillet, bonjour chez vous, où que vous soyez, au travail, en déplacement ou encore à domicile. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Alexis Gagnon au microphone, merci de syntoniser votre fréquence communautaire francophone locale, le 107.9 FM dans la grande région de Victoria. Nous allons tout de suite sauter dans le vif du sujet pour cette édition des 19 et 20 juillet avec la revue de presse internationale. Bonne émission à tous. Tout de suite sur le site d'information internationale RFI à l'adresse rfi.fr, on remarque cette nouvelle qui avait été abordée dans l'édition d'hier. On avait effectivement parlé de la dérive autocratique, la dérive dictatoriale qui se manifeste en Pologne. On a un petit peu la suite de ce dossier dans le portail RFI. Il en est question en date du 19 juillet. La Commission européenne demande à la Pologne de suspendre ses réformes. La Pologne sera-t-elle bientôt soumise à des sanctions de l'Union européenne, demande RFI dans cet article signé par Vincent Kessler. Bruxelles brandit en tout cas la menace de sanctions. En cause, la réforme très controversée du système judiciaire polonais par les conservateurs au pouvoir à Varsovie. La Commission européenne en demande la suspension immédiate et s'inquiète notamment de risques clairs sur l'état de droit. Qu'est-ce qui explique la fermeté de l'Union européenne dans ce dossier, demande RFI? Il y a d'abord le contexte général de l'ambiance fortement dégradée entre le gouvernement polonais actuel et la Commission européenne. C'est indéniable, analyse le journaliste Vincent Kessler dans cet article. Mais cette dernière, la Commission européenne, veut ne s'en tenir qu'au texte de loi. Et ce qui est décrit ici comme la vive préoccupation de la Commission européenne vise la loi polonaise sur le Conseil national de la magistrature, celle sur l'École nationale de la magistrature et une autre loi sur l'organisation générale des cours et tribunaux, ainsi qu'une autre loi encore sur la Cour suprême polonaise. Et selon la Commission européenne, la promulgation telle quelle de ces quatre textes de loi est de nature à saper l'indépendance de la justice en Pologne et à mettre gravement en péril la notion même d'état de droit en Pologne. Voilà donc ce qui ressort du débat approfondi contenu ce mercredi matin à huis clos les 28 commissaires européens. Ceux-ci ont demandé à leur service une analyse juridique des moyens de pression à leur disposition contre la Pologne, y compris le recours à l'arme nucléaire, c'est-à-dire l'article 7, alinéa 1er, 2 et 3 du traité de Lisbonne, qui permet de priver un État membre de l'Union européenne en rupture de ban de son droit de vote en Conseil des ministres de l'Union européenne. Alors voilà, la dérive autocratique, la dérive dictatoriale qui se confirme en Pologne inquiète la Commission européenne. Vous trouverez ça dans plusieurs médias, notamment dans le portail de RFI à l'adresse rfi.fr. Nous allons faire un saut du côté du journal Le Monde à l'adresse lemonde.fr. Libre-échange, l'Union européenne met les bouchées doubles. Au protectionnisme américain, Bruxelles répond par une accélération des discussions avec le Mexique et le Mercosur. L'effet Trump sur la politique commerciale de l'Union européenne est décidément impressionnant, peut-on lire dans cet article signé par Cécile Ducourtieu dans le journal Le Monde. Après avoir réussi le tour de force de boucler début juillet, juste avant le G20 en Allemagne, un accord de libre-échange à portée considérable avec le Japon, l'Union européenne veut à nouveau tirer parti du revirement protectionniste des États-Unis de Donald Trump pour mettre les bouchées doubles avec le Mercosur et le Mexique. Avec Mexico, les discussions n'ont pourtant démarré qu'en juin 2016, l'année dernière. Alors qu'un troisième round de négociations s'est terminé le 5 juillet, ce mois-ci, la Commission européenne compte aboutir à un accord dès la fin de 2017, un record pour des tractations qui, d'ordinaire, durent minimalement 4 à 5 ans. Alors voilà, en substance, l'Union européenne qui met les bouchées doubles, qui appuie sur l'accélérateur, signant des traités de commerce avec nombre de pays, alors que les États-Unis, eux, s'enfoncent dans le protectionnisme. Pour ceux qui suivent la politique française, je recommande dans les pages du média indépendant Mediapart cet article sur les récentes décisions en matière de fiscalité prises par le gouvernement d'Édouard Philippe et du président Emmanuel Macron en France. Et c'est un article que signe Laurent Mauduit dans le portail Mediapart, la dangereuse contre-révolution fiscale d'Emmanuel Macron. Président Macron qui a réduit les impôts des ultra-riches d'une infime minorité de grandes fortunes en France. Cela participe sans doute de cette théorie du ruissellement qui veut que, en réduisant les impôts des grandes fortunes, on obtient des retombées économiques. Cependant, cette théorie a été infirmée de nombreuses fois. C'est une théorie qui ne se vérifie pas dans la réalité. Si vous vous intéressez au sujet, c'est dans le portail Mediapart. On reste en France où on a également eu une démission surprise, une démission avec fracas du chef d'état-major des armées. C'est dans le fil de l'agence Reuters. La démission de Villiers ouvre une crise institutionnelle. Mécontent du sort réservé à la défense dans les arbitrages budgétaires du gouvernement français, le chef d'état-major des armées a démissionné. Et cela ouvre une crise politico-militaire, mais aussi institutionnelle majeure, estime le général Vincent Desportes dans une interview à Reuters. Il s'agit du général Pierre de Villiers, c'est le démissionnaire. Il était insatisfait des crédits consentis à l'armée dans le plus récent budget et il s'est opposé publiquement aux décisions du président Emmanuel Macron. Il a remis sa lettre de démission ces jours-ci et cela ouvre une crise institutionnelle. Si vous consultez un tout petit peu les journaux français ces jours-ci, vous verrez que la nouvelle occupe vraiment l'avant-plan de l'actualité. Vous aurez ça notamment dans le fil de l'agence Reuters sous le titre « La démission de Villiers ouvre une crise institutionnelle ». On revient dans le journal Le Monde un instant pour indiquer cette nouvelle écrite par le journaliste Piotr Smolar. L'Allemagne suspend la livraison de sous-marins à Israël sur fond de scandale. L'Allemagne a décidé de reporter la signature d'un mémorandum d'accord en vue de la livraison de 3 sous-marins à Israël. L'information a été révélée par le quotidien Yediot Aharonot mardi 18 juillet en Israël. La cérémonie devait avoir lieu la semaine prochaine. Ce contrat d'un montant de 1,5 milliard d'euros, dont l'Allemagne est supposée subventionner un tiers, est remis en question en raison de l'enquête explosive conduite en Israël sur des allégations de corruption et de blanchiment d'argent. Une enquête qui implique dorénavant le proche entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Une clause permet à l'Allemagne d'annuler le contrat si les allégations étaient établies. Le contrat n'est toujours pas signé, a confirmé au journal Le Monde un porte-parole du gouvernement allemand mardi, tout en refusant de commenter davantage les informations parues dans la presse israélienne. Et toujours à propos d'Israël, cette fois dans le fil de la Associated Press, une agence de presse américaine, Netanyahou tient des propos mordants sans savoir que son micro est allumé. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été surpris en train de qualifier de folie les démarches qu'entreprend l'Union européenne en vue de résoudre le conflit israélo-palestinien. S'adressant à ses homologues tchèques et hongrois lors d'un sommet régional mercredi, Benjamin Netanyahou a abordé des sujet épineux en ignorant que son microphone était allumé et que des journalistes pouvaient l'entendre. « Il n'y a aucune logique là-dedans », a déclaré le chef de l'État hébreu. « L'Europe nuit à sa sécurité en nuisant à Israël. L'Europe nuit à son progrès en nuisant à ses liens avec l'innovation israélienne en raison d'une folle tentative de créer des conditions pour la paix avec les Palestiniens », a-t-il cinglé. L'Union européenne, rappelle cet article d'Associated Press, ne reconnaît pas la souveraineté de l'État hébreu sur les territoires qu'il a conquis lors de la guerre des Six Jours en 1967. Territoire qui inclut bien sûr la Cisjordanie et Jérusalem-Est. L'Union européenne s'est longtemps montrée critique des colonies israéliennes et a adopté des mesures pour que les produits qui y sont fabriqués soient étiquetés en ce sens. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a également admis au cours de cet échange, dont il ignorait qu'il était capté par des microphones, il a admis donc que les forces israéliennes ont attaqué des convois d'armes iraniennes destinés au Hezbollah des dizaines et des dizaines de fois, entre guillemets, en Syrie au cours des quelques dernières années. Alors voilà, Netanyahou surpris alors que son microphone était allumé. Vous trouverez ça dans le fil de Associated Press. Peut-être connaissez-vous ce micro-État qu'on appelle Andorre. C'est un petit État, un petit pays situé entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées. Les mesures fiscales qui rendaient Andorre très attrayant pour les évadés fiscaux ont été abolies. On apprend ça dans le portail de RFI à l'adresse rfi.fr. C'est sous le titre « Andorre, paradis fiscal perdu ». Le Parlement andorran a adopté en début de semaine un texte rendant l'évasion fiscale délictuelle. Les auteurs seront désormais passibles d'une peine maximale de 5 ans de prison. Il est loin l'âge d'or de l'opacité fiscale en Andorre, peut-on lire dans cet article de RFI. La principauté pyrénéenne, jadis placée sur la liste grise des paradis fiscaux de l'OCDE, a fait un pas de plus sur la voie de la normalisation. Le Parlement andorran a adopté, en effet, en début de semaine, à l'unanimité, un texte inscrivant l'évasion fiscale comme un délit dans le code pénal. On va signaler la mort d'un académicien en France, Max Gallo. Et c'est une nouvelle qui paraît bien sûr dans tous les médias français. L'historien et académicien Max Gallo est mort ce mercredi 19 juillet à l'âge de 85 ans. Fils d'immigrés italiens qui ont jeté l'ancre un jour à Nice, cet historien à la vie romanesque, homme politique et de médias, a grandi dans une famille de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Forcené du travail, ce géant de l'édition a écrit une centaine de livres, dont des best-sellers. Mais cet intellectuel brillant, poursuit l'article de RFI, fut aussi au cœur de polémiques, notamment pour ses écrits sur l'identité française ou pour son parcours politique transhumant. Des jeunesses communistes où il a fait ses classes, il a rallié successivement le Parti socialiste sous le gouvernement Mauroy, puis le mouvement citoyen de Jean-Pierre Chevènement et finalement le parti de Nicolas Sarkozy. Et donc RFI signe ici un portrait d'un homme entier, selon l'expression de l'article, inclassable, aussi irritant qu'attachant et dont l'intégrité ne peut guère être mise en doute. Donc Max Gallo, qui s'est éteint à l'âge de 85 ans, vous trouverez ça dans le portail de RFI sous la plume de la journaliste Antoinette Delafin. Et pourquoi pas cette nouvelle insolite, tandis qu'on clôt cette revue de presse internationale, une représentation de Richard III fait débat en Angleterre, c'est dans le fil de l'agence Reuters. Une représentation de Richard III, la pièce de William Shakespeare, prévue dans la cathédrale de Leicester, où la dépouille du roi a été enterrée en 2015, fait débat en Angleterre. La pièce devait être jouée à guichet fermé mercredi soir en dépit des tentatives pour la faire annuler. Une pétition dans ce sens a recueilli environ 1300 signatures, faisant valoir qu'il était inapproprié de présenter l'œuvre de William Shakespeare si près du tombeau du souverain Richard III. Richard III avait été enterré dans la cathédrale de Leicester, rappelle cet article de Reuters, dans le centre de l'Angleterre, lors d'une cérémonie grandiose retransmise en direct à la télévision. 530 ans après la mort du roi en 1485 lors de la bataille de Bosworth. Son squelette avait été retrouvé en effet par hasard en 2012 sous un parking de cette ville. Pour l'historien Philip Langley, qui a joué un rôle clé dans l'identification des restes du souverain, jouer la pièce infamante de Shakespeare si près du tombeau du roi est inapproprié et n'est pas un acte chrétien. La controverse semble reposer sur le fait que le Richard III, écrit par Shakespeare, présente le personnage principal comme un bossu cruel, sadique et tyrannique, responsable du meurtre de ses jeunes neveux. Face à cette sinistre réputation, les partisans d'une réhabilitation de l'image de ce roi maudit avancent que la pièce de Shakespeare n'était qu'une œuvre de propagande peu conforme à la réalité. Voilà, donc la pièce devait se tenir le 19. Au moment d'enregistrer cette émission, on ne sait pas si les opposants sont parvenus à faire annuler la représentation. C'est dans le fil de Reuters si vous voulez consulter la nouvelle. Et on va terminer avec une autre nouvelle insolite, un androïde, un robot qui se serait suicidé, est-ce possible? C'est la question que pose le journal Le Monde dans sa section Big Brother. L'androïde s'est-il suicidé en se jetant dans un bassin? Les robots de sécurité sont censés ne pas ressentir l'ennui. peut-on lire dans cet article. Pourtant, l'un d'eux semble avoir volontairement plongé dans les eaux d'une fontaine d'un centre commercial de Washington. Plutôt amusant, c'est un article signé par Lina Ricci dans le journal Le Monde. Créer une intelligence artificielle capable d'avoir une conscience et de ressentir de l'émotion est un rêve de laboratoire probablement inatteignable, écrit la journaliste. C'est pourtant ce qu'un robot de sécurité a eu l'air de mettre en scène le 17 juillet au Washington Harbor, un centre commercial de la capitale américaine. Le K5 Autonomous Data Machine, un androïde développé par la société Nightscope, qui a des faux airs de R2-D2 de la série Star Wars. Il a la forme d'un œuf d'un mètre et demi, peut-on lire dans cet article. Il est capable de progresser à une vitesse de près de 5 km/h. Il est équipé de la technologie d'imagerie thermique, d'un système de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. Il est aussi équipé d'une caméra. Et la firme qui l'a conçu assure que le K5, le K5, peut offrir des yeux et des oreilles intelligents supplémentaires aux forces de sécurité, aux autorités policières, etc. Pour 7$ de l'heure, cette machine est en location et elle est censée détecter les activités anormales et se déplacer même dans les environnements les plus complexes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Or voilà, tout à coup, lundi 17 juillet, devant les regards amusés des passants, le robot de sécurité à la pointe de la high-tech a dévalé les quelques marches de la fontaine du centre commercial jusqu'à plonger dans un bassin. Plusieurs témoins de la scène ont alors posté des photos de l'accident sur Twitter, théorisant ironiquement qu'il s'agissait d'un suicide. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser ce robot à se précipiter dans l'eau d'une fontaine? Était-il la victime d'un ennui profond, d'une déprime poussée? Était-il capable de ressentir de la tristesse? C'est la question qu'on pose, bien sûr, avec un grain de sel dans cet article signé par Lina Ricci dans le journal Le Monde. On va refermer cette revue de presse internationale sur cette nouvelle insolite. Restez à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. Dans quelques instants, la revue de presse nationale. À tout de suite. L'info se poursuit dans cette édition des 19 et 20 juillet. Merci d'être à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone, le 107,9 FM dans la grande région de Victoria. Nous allons maintenant effectuer une petite revue de presse nationale en commençant dans les pages du journal Le Devoir. La popularité de Jagmeet Singh inquiète les néo-démocrates québécois. C'est un article que signe Marie Vestel dans le journal Le Devoir. Marie Vestel, qui est la correspondante parlementaire du journal à Ottawa. L'appui d'une députée québécoise au candidat Jagmeet Singh ravive les craintes des néo-démocrates au Québec qui s'inquiètent de voir leur parti se choisir un chef qui nuirait à leur chance électorale dans la province. À tel point, écrit la journaliste, que certains se demandent s'il n'est pas temps pour eux de renoncer au NPD, du moins pour quelque temps. Alors c'est un sujet qui a déjà été abordé dans le journal Le Devoir. Il semble que les craintes des néo-démocrates québécois ne cessent pas au sujet du candidat Jagmeet Singh qui espère succéder à Thomas Mulcair et qui a quand même le vent en poupe actuellement au sein des troupes néo-démocrates à l'approche du vote décisif. Mais côté néo-démocrate québécois, il y a des réserves importantes, des bémols. Plusieurs membres de l'aile québécoise du Parti fédéral s'expriment dans cet article de Marie Vestel. Vous trouverez ça sur le journal Le Devoir. Nous allons nous tourner maintenant vers le fil de la presse canadienne. Les négociations sur l'ALENA débuteront le 16 août à Washington. La première ronde de négociations sur un nouvel accord de libre-échange nord-américain, ALENA, se déroulera du 16 au 20 août. Le représentant américain au commerce Robert Lighthizer a annoncé que les discussions initiales entre les négociateurs américains, canadiens et mexicains se dérouleraient à Washington. Le représentant américain en a profité pour préciser que John Milley, représentant américain américain adjoint au commerce pour le continent américain serait le négociateur en chef des États-Unis. Des fonctionnaires des trois pays s'étaient réunis à Washington en début de semaine pour discuter de la logistique des négociations à venir. Les États-Unis ont entrepris en mai le processus de renégociation du traité trilatéral conclu il y a 23 ans. Le président américain Donald Trump a promis d'obtenir une meilleure entente, selon sa propre expression, pour son pays. Cette semaine, poursuit cet article de la presse canadienne, l'administration Trump a aussi dévoilé ses priorités pour la renégociation. Les États-Unis veulent entre autres un meilleur accès pour leurs exportations en agriculture, dont les produits laitiers, le vin et les céréales. Un peu plus bas dans le fil de la presse canadienne, piratage de Yahoo, l'accusé canadien contestera son extradition. Le Canadien accusé dans l'affaire du piratage massif de courriel de Yahoo contestera son éventuelle extradition vers les États-Unis, a indiqué son avocat il y a quelques jours. L'avocat Amedeo Di Carlo, qui représente Karim Baratov, a précisé en début de semaine que s'il ne parvient pas à négocier avec les autorités américaines une issue convenable pour son client, il tenterait de le garder en sol canadien. Maître Di Carlo avait signalé le mois dernier qu'afin d'accélérer le processus judiciaire, Karim Baratov envisageait de renoncer à son droit de s'opposer à la demande d'extradition dont il fait l'objet. Karim Baratov avait été arrêté en mars dernier, rappelle cet article de la presse canadienne. Il avait été arrêté à Hamilton, en Ontario, en vertu de la loi sur l'extradition, après que les autorités américaines l'eurent accusé de piratage informatique, d'espionnage économique et d'autres crimes. Trois autres personnes ont aussi été accusées dans cette affaire, dont deux sont considérées comme des officiers présumés du service de sécurité fédérale de la Russie. Un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a tranché que Karim Baratov, qui est âgé de 22 ans, pourrait tenter de s'enfuir et l'a donc placé en détention provisoire d'ici son audience d'extradition, un jugement qui a été maintenu en appel. Cette nouvelle, je le rappelle, paraît dans le fil de la presse canadienne « Piratage de Yahoo ». L'accusé canadien contestera son extradition. Et cette fois dans les pages du journal La Presse, sous la plume du journaliste Philippe Tesquera-Lessard. Un article intitulé « Les juges de la Cour supérieure lancent une poursuite ». En pleine crise du système judiciaire au pays, les juges de la Cour supérieure du Québec lancent une procédure visant à faire réduire la compétence de leurs collègues de la Cour du Québec. En date d'aujourd'hui, écrit le journaliste de La Presse, les juges de la Cour supérieure entendent notamment les causes où l'enjeu monétaire dépasse 85 000 $, alors que les juges de la Cour du Québec tranchent les poursuites moindres. Mais les magistrats de la Cour supérieure veulent que le seuil soit rabaissé à 10 000 $, une question de principe selon l'avocate qui les défendra. L'existence des deux tribunaux relève de la Constitution, rappelle le journaliste. Les juges de la Cour supérieure sont nommés par Ottawa, alors que ceux de la Cour du Québec sont nommés par le gouvernement provincial. La ligne de démarcation actuellement tracée à 85 000 $ ne respecte pas le compromis qui a été fait en 1867 quand on a fait la Constitution. Ça ne respecte pas le partage des pouvoirs entre le fédéral et le provincial, a indiqué Maître Madeleine Lemieux, qui mènera cette cause. De l'avis de Madeleine Lemieux, la Cour supérieure doit demeurer la Cour de droit commun auquel les citoyens s'adressent par défaut pour faire trancher leurs litiges. En 1867, le seuil de compétence des cours provinciales, dont la Cour du Québec, était de 100 $, a-t-elle rappelé lors d'un entretien téléphonique accordé à Philippe Tesquera-Lessard. Et le journaliste rappelle dans cet article que la procédure est lancée par les trois juges en chef de la Cour supérieure au nom de l'ensemble de leurs juges du tribunal. Ils ont voté l'automne dernier afin de contribuer personnellement à hauteur de 1500 $ chacun afin de financer cette cause. Leur procédure demande aussi un jugement déclaratoire à l'effet que la compétence attribuée à la Cour du Québec en matière de révision des décisions administratives est inconstitutionnelle. Alors, un fait assez inusité dans le monde de la justice, c'est rapporté par le journaliste Philippe Tesquera-Lessard dans le journal La Presse. Les juges de la Cour supérieure lancent une poursuite. C'est daté du 19 juillet. On va refermer là-dessus notre revue de presse des infos nationales, des infos canadiennes. Dans un instant, quelques nouvelles à thématique francophone dans cette édition des 19 et 20 juillet du Débrief. Merci de rester à l'écoute. À tout de suite. quelques dépêches à thématique francophone. Pas d'obligation de bilinguisme en Alberta et en Saskatchewan, tranche la Cour suprême. La Cour suprême du Canada a rejeté vendredi l'appel de Gilles Caron et de Pierre Boutet et décidé qu'aucun élément historique n'empêche l'Alberta et la Saskatchewan de se déclarer unilingues sur le plan législatif. Dans une décision partagée, une majorité des 6 des 9 juges de la Cour refuse l'interprétation d'un droit implicite. Les droits linguistiques ont toujours été conférés de manière expresse, écrivent les juges de la Cour suprême du Canada dans cette décision. Ceux-ci qualifient l'interprétation historique présentée par M. Caron et M. Boutet comme un amalgame complexe fait d'instruments, de phrases vagues, de déclarations politiques et de contextes historiques. 3 juges, dont 2 Québécois, sont plutôt d'avis que les provinces auraient dû être déclarées bilingues sur le plan législatif. Selon eux, l'histoire prouve que le bilinguisme avait effectivement été accordé avant la création des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. Donc, on parle des juges dissidents ici qui n'avaient pas la majorité dans ce jugement de la Cour suprême. Et ces juges auraient préféré que la Cour reste fidèle à l'approche large et généreuse adoptée par la Cour à maintes reprises dans le passé en matière de bilinguisme. Je rappelle le titre, pas d'obligation de bilinguisme en Alberta et en Saskatchewan, tranche la Cour suprême du Canada. C'est dans le portail albertain de Radio-Canada que vous trouverez cet article. Et tandis que les jeux de la francophonie canadienne battent leur plein en Acadie actuellement, on a malheureusement un article dans le portail néo-brunswickois de Radio-Canada qui fait état de jeunes qui parlent anglais, malheureusement, sur le site des jeux. Et c'est un phénomène très répandu, nous apprend cet article publié par Radio-Canada Nouveau-Brunswick. Parler en anglais aux jeux de la francophonie. Et plusieurs interventions, plusieurs témoignages dans cet article, dont ceux de participants québécois qui ne comprennent pas pourquoi le français n'est pas la langue commune des participants à ces jeux de la francophonie canadienne. Je rappelle le titre, « Parler en anglais aux jeux de la francophonie », c'est en date du 14 juillet sur le portail acadien de Radio-Canada. Alexis Gagnon, en votre compagnie dans cette édition des 19 et 20 juillet. Merci d'être à l'écoute. Le débrief se poursuit. Avant de nous rendre à la chronique de Marie-Hélène, une conversation que j'ai eue avec Marie-Hélène à propos du dossier Kinder Morgan, conversation qui n'a pu être diffusée hier en raison d'un petit ennui technique. Vous l'avez peut-être entendu en rediffusion dans la matinée du 19 juillet. Quoi qu'il en soit, on la repasse intégralement aujourd'hui dans l'édition du 19 et du 20. On va parler de Desjardins, notamment, qui a retiré ses billes du projet d'expansion de Trans Mountain et de la toute dernière newsletter du groupe Dogwood Initiative. Donc, c'est dans quelques instants. Auparavant, on va faire quelques mentions d'articles paraissants dans la presse anglophone et francophone de la province. Débutons tout de suite par l'assermentation du cabinet Horgan, du premier ministre John Horgan au premier chef, ainsi que l'assermentation des députés et la nomination des ministres. On a fait par le détail, par le menu détail, la liste des ministres du cabinet Horgan. Vous trouverez ça dans tous les médias, à commencer par le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Il y a là une nouvelle intitulée « John Horgan est assermenté 36e premier ministre de la Colombie-Britannique ». Vous avez bien sûr tout le cabinet. Rappelons que Adrian Dix est ministre de la Santé, que notre député local Carol James est ministre des Finances et vice-première ministre, et que David Eby est ministre de la Justice. Par ailleurs, vous aurez la liste complète des ministres dans cette nouvelle de Radio-Canada Colombie-Britannique. Et dans le Times Colonist, on a une chronique de Leslie qui s'intitule « Emotion Filled Start for New NDP Government », un départ empli d'émotions pour le NPD provincial. C'est la chronique en date du 18 juillet que signe Leslie dans le Times Colonist, notre quotidien local ici à Victoria. Même chose dans le Taï, ce média indépendant qui a son quartier général ici sur l'île de Vancouver, une couverture de l'assermentation d'hier. BC's new premier John Horgan unveils gender balance cabinet, donc la parité homme-femme dans le cabinet du premier ministre John Horgan. Effectivement, on parle de 11 ministres femmes et de 11 ministres hommes, une parité parfaite atteinte par John Horgan au sein de ce cabinet néo-démocrate provincial. Vous trouverez ça dans le Taï et bien sûr, le Taï rappelle la position prépondérante qu'occupera Carol James dans ce conseil des ministres qui succède au gouvernement libéral qui était en poste depuis 16 ans. Et je fais un petit retour dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada brièvement pour signaler le décès de Marie Bourgeois, morte à 69 ans. C'est rapporté par Radio-Canada Colombie-Britannique. Alors, c'est une grande dame de la francophonie britanno-colombienne qui est disparue. Ceux et celles qui ont côtoyé Marie Bourgeois de près ou de loin sont unanimes. C'était un pilier de la communauté francophone en Colombie-Britannique, écrit Radio-Canada dans cet article nécrologique. En effet, rappelle cet article, Marie Bourgeois a été tour à tour présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique entre 1989 et 1993, puis directrice générale de la Maison de la Francophonie et enfin présidente du Conseil scolaire francophone de 2006 à 2010. Et c'est un portrait biographique que signe Radio-Canada ici dans son portail britanno-colombien. Marie Bourgeois meurt à 69 ans. Un article écrit par Noémie Mukanda. Sans plus tarder, nous allons nous rendre à cette conversation, cette chronique menée par Marie-Hélène sur le sujet de l'expansion du pipeline Kinder Morgan, chronique que nous avons réalisée ensemble un peu plus tôt cette semaine. On se retrouve de l'autre côté pour le mot de la fin. Vous êtes toujours dans Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. Nous allons encore une fois parler de Kinder Morgan. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour. Alors, mon nom est lié à Kinder Morgan.
On associe effectivement tes chroniques à Kinder Morgan. On a souvent échangé sur ce sujet chaud, ce sujet polémique, ce sujet qui fait débat ici dans la province de Colombie-Britannique. Kinder Morgan, bien sûr, est à nouveau dans l'actualité. On a appris un petit peu plus tôt ce mois-ci que Desjardins, la coop, la banque Desjardins, bien connue des francophones d'origine québécoise, avait retiré ses billes du projet d'expansion du pipeline Trans Mountain. On peut rappeler rapidement les faits. Le pipeline Trans Mountain, c'est un oléoduc qui traverse la province. Il existe depuis plusieurs décennies. Kinder Morgan veut en accroître la capacité par trois fois, tripler la capacité, autrement dit.
Et ça transporte pas juste du pétrole, mais du bitumen.
Oui, du pétrole bitumineux. Donc, c'est du pétrole qui coule au fond. Si jamais il y a un déversement, c'est impossible à récupérer. C'est permanent et ça cause des dommages très importants. L'expansion de ce pipeline entraînerait une augmentation de 700% du trafic, transport de tankers, de super pétroliers au seuil de Vancouver, dans le port de Vancouver. Donc
et partout dans le détroit de Juan de Fuca pour qu'ils puissent sortir éventuellement. Exact. Et c'est une section, donc une portion de notre côte qui est extrêmement sensible au point de vue de la biodiversité.
Voilà, le décor est planté. C'est un projet qui est rejeté par la société civile ici en Colombie-Britannique. Tous les environnementalistes l'ont critiqué.
Plusieurs des Premières Nations.
Les Premières Nations, oui, c'est très important. On reviendra d'ailleurs sur le sujet des Premières Nations dans cette discussion. Donc, Desjardins, qui a vu le risque financier, c'est sans doute pas par grandeur d'âme, ni par souci environnemental.
C'est une banque.
C'est une banque, c'est voilà, une banque, donc très pragmatique.
Oui.
Elle a décidé de retirer ses billes de façon temporaire et ça pourrait devenir permanent. C'est ce qu'on apprend à la lecture des différents articles. Il y a un super papier qu'on a lu tous les deux, oui, Marie-Hélène, dans le portail de CBC, Radio-Canada, côté anglophone. « What Desjardins Investment Freeze Could Mean for Kinder Morgan's Pipe Dreams ».
Oui.
Alors, quel avenir pour Trans Mountain suite au retrait de Desjardins?
Ben, moi, je pense que Desjardins prend une décision qui a plusieurs facettes. Hein. La première facette, c'est vraiment, ben, pour eux, c'est l'argent. Hein, c'est une banque.
Voilà.
C'est très loin de ce que M. Desjardins lui-même avait pensé comme philosophie. Mais bon,
Mais quand tu vois le salaire que se versait la PDG de Desjardins il y a quelques années, ça aussi, ça aurait fait sursauter le fondateur Desjardins.
Oui, retourner dans sa tombe. Mais ce Desjardins-ci dont on parle, il représente pas seulement au Québec. Hein, il y a plusieurs petites coops à travers le Canada. Et ça aussi, il faut faire plaisir à tout le monde. Et ces petites coopératives-là qui
se font... Qu'est-ce que tu veux
dire? Ben, c'est parce que il y a tous ces gens-là, parce que c'est des coopératives. Alors, il y a tous les gens qui participent à cette coopérative qui sont devenus totalement différentes. Alors, il y a des gens de l'Alberta, il y a des gens de l'Ontario, il y a des gens des provinces de l'Est, il y a des gens du Québec en grande majorité, parce que Desjardins, c'est surtout un organisme du Québec.
Et hors Québec, c'est surtout dans des environnements francophones, comme la Ceinture verte en Ontario ou l'Acadie au Nouveau-Brunswick.
Ouais. Donc, il faut eux autres qui prennent en considération les idées de tout le monde et tout ça. Deuxièmement, il y a le côté argent. On sait pas si Kinder Morgan va réussir à passer ou non. On ne sait pas parce que ici, on le sait, là, les paris sont ouverts parce que ici, en Colombie-Britannique, ben, avec le gouvernement qui est appuyé par les Verts, il est possible que on soit capable de stopper l'expansion.
On y viendra.
On y viendra.
C'est le deuxième volet.
Mais Desjardins le regarde ça.
Exact.
Il le voit.
Desjardins a constaté qu'il y avait un risque d'annulation.
Oui.
Ce projet pouvait tomber à l'eau.
Oui.
Et conséquemment, ils ont pris la décision de se retirer. Ils ont préféré ne pas courir le risque.
Oui.
Donc, ils ont exercé leur droit de retrait. Il y a plusieurs autres banques qui sont impliquées dans le financement de l'expansion de Kinder Morgan et elles sont toujours dans le jeu aux dernières nouvelles. CBC demande à un expert de l'Université de Calgary...
S'appelle, de façon assez comique, Michael Moore.
Oui, à ne pas confondre avec le documentariste américain.
Non.
Et cet expert... enseigne à la School of Public Policy de Calgary. Alors, c'est un question-réponse qui est assez intéressant. On pourrait peut-être passer à travers rapidement.
Ouais.
Essayer de bien vous accrocher. On va faire un peu de traduction en temps réel. If Desjardins pulls funding, does it have a real effect on the project? Donc, si Desjardins se retire, est-ce que cela aura un effet réel sur la viabilité du projet d'expansion?
Ben, pas vraiment. Selon l'article, parce qu'une compagnie aussi grosse que Kinder Morgan, ben, ils ont d'autres sources de financement vers lesquelles ils peuvent se tourner. Même s'il y a un grand nombre de banques, si même plusieurs banques se retiraient de ce projet-là, ou disaient qu'ils ont de la difficulté à cause des promesses qu'ils ont faites à Kinder Morgan, ils pourraient toujours aller ailleurs.
Mais le journaliste insiste et redemande, reformule sa question, dit si plusieurs banques se retiraient, est-ce que cela aurait un effet? Et là, finalement, l'expert...
Il dit oui.
Finit par concéder que ça aurait un effet.
Parce que juste Desjardins, il y en a d'autres des banques, mais si plusieurs banques se retiraient, ben là, effectivement, ça pourrait avoir un problème pour le projet. On sait que le gouvernement du Canada donne des milliards de dollars par année, soit en crédit d'impôt, soit en subvention directe.
Exact, c'est bon de le rappeler.
Ouais, mais ça, c'est pas suffisant. Alors, on peut réfléchir un peu puis se dire, Ben là, si c'est bon pour l'économie canadienne,
que 50 emplois, c'est bon pour l'économie,
ouais,
parce que c'est ça, hein, finalement.
Ouais, en bout de ligne, oui.
En bout de ligne, c'est seulement 50 emplois permanents.
Ouais.
Il y a un petit peu de construction là, mais
une fois que la construction est faite,
voilà, nous on a les risques, eux ils ont les profits.
Absolument.
Il y a une question très importante dans ce question-réponse sur le portail CBC, c'est Is this a victory for Aboriginal and environmental groups? Est-ce que cela constitue une victoire pour les groupes autochtones et environnementalistes? Demande la CBC à cet expert de l'Université de Calgary et il semble que oui, dit-il, du moins à court terme.
À court terme, il semblerait qu'ils ont réussi à influencer la pensée du public en général. On sait que de plus en plus de gens vont exiger de leur institution financière, donc des gens qui ont des placements, qui vont exiger que ces banques-là prêtent seulement à des organismes, à des groupes, à des business qui ont donc la survie de la planète à cœur. Et c'est un peu notre devoir en tant que client de banque,
oui, hein,
en tant que consommateur, d'aller encourager des business qui sont viables, qui ont des projets viables pour l'environnement. Juste en rentrant ce matin, on mangeait du chocolat, puis on se disait, ah, ben, est-ce que cette sorte de chocolat-là,
provient de l'esclavage des enfants en Afrique?
Provient des enfants en Afrique. Ben, on doit se renseigner.
On doit se poser des questions.
Et non seulement on doit renseigner, se poser des questions, mais on doit faire des choix et exiger des gens qui gèrent notre argent sur lequel ils font de l'argent. Ben, qui donnent ou qui prêtent de l'argent aux compagnies que nous, on appuie.
Ton commentaire me rappelle également une manifestation qui s'est tenue ici même à Victoria cet hiver, au cours de laquelle le groupe de manifestants s'est déplacé devant l'enseigne,
ouais,
TD,
ouais,
la TD Bank,
ouais,
pour faire une espèce de charivari un peu chahuté,
ouais,
entraver un peu l'entrée de la banque au moment de la fermeture et rappeler aux,
ouais,
citoyens, aux badauds qui passaient par là que TD était impliqué dans le financement de
ouais,
cette expansion de pipeline qui suscite qui va entraîner d'importants, mm-hmm, risques environnementaux, humains.
Ben, la grande majorité des grandes banques sont effectivement impliquées.
Voilà.
Ici au Canada, du moins.
Voilà, c'est important de le savoir. Et maintenant, on va passer au second volet de notre chronique du jour sur le pétrole bitumineux de Kinder Morgan. C'est issu de la lettre d'information qu'envoie toutes les semaines Dogwood, cet organisme qui milite très fort ici en Colombie-Britannique. Donc Dogwood, dans sa dernière lettre d'information, nous a inclus un article qui s'intitulait « Can John Horgan's new BC government really stop Kinder Morgan? » Est-ce que le nouveau gouvernement néo-démocrate appuyé par les Verts peut stopper Kinder Morgan? Point d'interrogation. Et la réponse?
Ben moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Puis la réponse dans l'article, c'est aussi « Oui, on peut avoir de l'espoir, mais c'est pas le temps de baisser les bras. Il faut continuer à pousser. » Parce que c'est multifacettaire, c'est pas juste provincial, cette affaire-là, hein?
Non.
C'est aussi fédéral.
Oui.
Et une des batailles...
Et Justin Trudeau aime beaucoup ce projet.
Et on sait ici que Christy Clark a reçu 771 000 $ des organismes qui appuient...
De l'industrie pétrolière.
De l'industrie pétrolière,
oui,
qui appuient, soit directement ou indirectement...
Et cela a fortement influé sur ses décisions, on s'en doute.
Ben oui.
C'est assez clair
ouais,
et c'est assez évident. Alors cet article est assez optimiste. C'est
ouais,
génial de recevoir parfois des informations qui incitent à l'espoir.
Et c'est pas du fake news. Et c'est pas du fake news.
C'est pas
là,
du fake news.
C'est toutes les informations qu'on reçoit de Dogwood. Et vous pouvez vous inscrire. Vous allez juste Dogwood BC parce
oui,
qu'il y a un autre Dogwood ailleurs. Là, Dogwood BC. Et vous allez arriver au Dogwood, c'est quoi donc, Initiative.
Oui,
vous allez
dogwoodbc.ca.
Ouais, vous allez être capable de le trouver. Pourquoi Dogwood? Parce que c'est le cornouiller.
Oui, voilà.
C'est qui est l'emblème de
qui est une essence d'arbre. Hein?
Ouais.
Oui, c'est
ouais,
ça.
Alors, on continue.
Donc, alors, pourquoi cette lettre d'information de Dogwood, l'auteur estime-t-il que Kinder Morgan peut être arrêté? Il donne des raisons, bien sûr, dans le texte. Alors, premièrement, la marche à suivre, c'est d'abord que le nouveau gouvernement cesse, mette fin à la poursuite qui l'oppose à un groupe autochtone de Squamish, la Première Nation Squamish, sur justement le tracé du pipeline Kinder Morgan.
Ben, en fait, la plupart des Premières Nations...
Ça, c'est un reliquat du gouvernement Clark qui va être effacé. Donc,
on va
faire table rase et repartir sur de nouvelles bases.
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ça, c'est une action légale qui a été prise par les Squamish contre le gouvernement provincial.
Oui.
Alors que dans les autres cas dont on a entendu parler, c'est contre le gouvernement fédéral.
Oui.
Et là, ça fait une grande différence.
Mm-hmm.
Parce que si, du jour au lendemain, on dit, c'est correct, vous avez raison, on se bat plus, premièrement, on va éviter des frais, on va se faire des amis aussi, et on va être capable d'opposer un poids plus important contre Kinder Morgan ou tout autre organisme qui voudrait passer par là.
Ils sont allés sur les deux fronts. Hein. Je crois qu'ils ont attaqué en justice le gouvernement fédéral, mais ils se sont pas contentés du...
Ils se sont pris le provincial aussi, et ça a été très intelligent de leur part.
Voilà, donc... Oregon, dès les premiers jours, dès aujourd'hui,
ça.
Finalement,
ben
puisque
c'est aujourd'hui que ça se passe.
La sermentation et la nomination du cabinet a lieu aujourd'hui, 18 juillet. Donc voilà, c'est la première chose à faire en prenant les manettes du pouvoir. Deuxième chose, le cabinet peut émettre un décret sur l'utilisation des terres sur l'utilisation des ressources concernant Kinder Morgan, bien sûr.
Ouais, ben.
Et c'est un décret qui annulerait les permis qui ont été consentis à cette industrie et particulièrement à Kinder Morgan. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire pour Oregon.
Et ça, c'est un outil qui est immédiat.
Oui, voilà.
Ça va pas prendre 10 ans à se battre en cour pour le faire. Ils peuvent tout simplement, dès que le nouvel Attorney General va être nommé, ils peuvent faire cette démarche-là tout de suite.
Le ministre de la Justice?
Oui.
Tu crois aux États-Unis, non? Ministre de la Justice, oui.
Et merci, ministre de la Justice. Je lis trop d'affaires sur Trump dernièrement.
C'est ça,
Il y a des petits fils qui se touchent. Donc, il pourrait... c'est une mesure immédiate, de la même façon que d'arrêter les poursuites avec les Squamish. C'est immédiat, c'est tout de suite, c'est un effet là dès le lendemain
voilà.
là.
Et une fois que ces permis sont annulés et que les permis en traitement eux aussi sont annulés, le nouveau gouvernement de Colombie-Britannique pourra entamer une nouvelle étude du projet, une étude exhaustive et complète, une vraie étude, comme tu dis, qui n'est pas intoxiquée par l'argent de l'industrie et par le clientélisme du gouvernement Clark. Alors,
ça serait vraiment, à ce moment-là, une étude qui serait non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la sécurité, sur l'eau, sur la santé des gens qui sont dans ces milieux-là. Là.
Voilà, t'as tout nommé. Là.
Ouais.
T'as l'environnement, l'eau, la sécurité, santé publique, tourisme, les espèces menacées, voilà, c'est tout ça. Et cet article de Doug Wood signale avec un brin d'ironie que le gouvernement Clark a même pas tenu Kinder Morgan aux 5 conditions qu'elle-même avait posées.
Ouais.
Parce que la première ministre Clark et son gouvernement avaient posé 5 conditions essentielles sine qua non, soi-disant.
Ouais.
Mais ces conditions n'ont même pas été respectées.
Et pourtant, on a dit oui.
Clark n'a rien fait.
Ouais, absolument.
Alors, voilà. Et il y a une autre chose dont on parlait et c'est un point qui va bien sûr être utilisé contre le veto que voudra
Maître Trudeau.
Opposé à Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau a laissé entendre qu'il pourrait faire passer Kinder Morgan contre la volonté populaire, contre le gouvernement Oregon.
Contre les Premières Nations.
En invoquant la précédence du gouvernement fédéral en cette matière, donc le droit du gouvernement de déterminer qu'un ouvrage public, qu'un travaux public, a un intérêt national et donc passe par-dessus toutes les législatures locales.
Ouais.
Ce qui va pouvoir être fait contre ce veto fédéral, c'est les droits des Premières Nations, c'est invoquer le droit des Premières Nations, c'est le talon d'Achille.
C'est inscrit dans la Constitution, ces droits-là.
Voilà, c'est dans la Constitution, donc les droits des Premières Nations peuvent être invoqués de façon crédible.
Ouais.
C'est dans le texte originel du pays.
Ouais.
Et Trudeau a toujours dit qu'il allait s'adresser de nation à nation.
Ouais.
En campagne électorale.
Ouais.
On va le rappeler, on va lui rappeler ses bonnes paroles.
Ouais.
Et dans cette lettre d'information communiquée par Doug Wood, on parle d'un cabinet d'avocats qui s'appelle West Coast Environmental.
Ouais.
Donc, c'est un cabinet d'avocats qui est très au fait des derniers développements et qui va être un des joueurs le dossier là au cours des prochains mois.
Ouais.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que les auditeurs qui ont encore des questions peuvent se rendre sur le site de Doug Wood et consulter justement cette dernière édition de la newsletter pour lire l'article intitulé « Can John Horgan's new BC government really stop Kinder Morgan? » Point d'interrogation. Est-ce que le nouveau gouvernement de Horgan, avec l'appui des Verts de Weaver, pourra stopper Kinder Morgan? Et comme on le disait, c'est un article qui se présente avec une note d'optimisme.
Oui, une note d'optimisme, des outils. Et moi, je tiens à souligner auprès des auditeurs encore, vous avez l'argent du pouvoir. Ou pour le pouvoir de l'argent, c'est la même chose. Vous avez des sous en banque, vous pouvez exiger.
Ah, OK, dans ce sens-là,
vous pouvez exiger de votre banque de prendre des positions qui sont tout à fait selon vos croyances.
Vous pouvez menacer de retirer votre argent et d'aller le déposer
Island Coast Capital, je sais pas comment il s'appelle, la petite banque
dans le mouvement coopératif local.
Oui, absolument. Et pourquoi pas? À un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on n'a pas le pouvoir, que ça se passe au-dessus de notre tête. Il faut prendre des positions. On a juste à regarder un peu l'histoire. Si on est durant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde savait ce qui se passait avec les Juifs. Il n'y a personne qui s'est levé debout avec les résultats qu'on connaît. Alors, cette fois-ci, c'est un peu la même chose. Chacun
a
le pouvoir.
À une échelle différente. C'est différent, mais
c'est la même chose.
Le principe est le même.
Le principe est le même. On voit qu'est-ce qui se passe. On a le pouvoir de le changer, mais on ne le fait pas. Alors,
voilà.
Debout, citoyens!
sur ce mot d'ordre qu'on va conclure aujourd'hui, merci beaucoup Marie-Hélène pour ce passage en studio. On reparlera certainement de ce dossier environnemental prochainement.
Au revoir!
Terminus pour cette édition des 19 et 20 juillet. Merci de l'avoir écouté. Encore merci à notre chroniqueuse régulière Marie-Hélène Bourret pour ce topo sur le dossier Kinder Morgan Trans Mountain. On se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. En vous quittant, je vous mentionne quelques nouvelles ayant trait à la situation des feux de forêt en Colombie-Britannique. On a une nouvelle de dernière heure. Une des premières actions prises par le nouveau gouvernement de John Horgan a été de doubler les montants consentis aux évacués des feux de forêt en Colombie-Britannique. John Horgan a pris cette décision aujourd'hui et il a également prolongé l'état d'urgence dans la province. Là-dessus, excellente fin de journée si vous nous écoutez dans la fin de journée du 19. Excellente journée si vous nous écoutez en début de matinée le 20 juillet. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.
Bonjour tout le monde, ici Laurence Jalbert. Vous êtes à l'écoute de CILS FM 107.9, la seule radio communautaire francophone du côté ouest des Rocheuses.
Désirez-vous être écrivain pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine? Écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CILS FM.
Bonjour, je m'appelle Skyler.
Et je m'appelle Bella.
Et vous écoutez CILSFM à Victoria.
that smile at you.
Vous écoutez CILS FM.
La voix de votre communauté.
L'Odyssée du rythme. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. À la technique, Nicolas Fiche. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes à travers le temps par ses notes enjouées et vous fera connaître et reconnaître des mélodies avec son histoire et ses anecdotes, qu'elles soient musicales, vocales ou instrumentales, pour lesquelles elles ont su donner ses lettres de noblesse. Bon voyage!
L'Odyssée du rythme vous emmène dans l'ère du swing et les big bands de la côte Est et ses chefs d'orchestre parmi lesquels Don Redman, Claude Hopkins, Bill McKinney, Roy Eldridge, Fletcher Anderson, Jimmy Lunsford et bien sûr Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, Chick Webb. Nous ne parlerons que des chefs d'orchestre moins célèbres et aussi talentueux.